Volontariat,
job,
stage, au pair. La mobilité européenne et internationale, accessible à tous. Partir pour se construire, le nouveau rendez-vous mensuel de l'association Itinéraire International.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Partir pour se construire, un espace radiophonique consacré à la mobilité européenne et internationale accessible à tous. Je m'appelle Maxime et je suis volontaire en service civique à Nantes dans l'association Itinéraire International. L'émission aujourd'hui est co-animée à nouveau par Ninon, également volontaire en service civique à Itinéraire International.
L'émission d'aujourd'hui est consacrée au voyage en Asie, du Cambodge à Bali en passant par le Japon. Nous découvrirons différentes formes de voyages possibles à travers ces destinations. Les invités viendront nous faire part de leurs témoignages, de leurs conseils, de leurs bons plans. Caroline nous parlera de son expérience de voyage à Bali. Alix et Louise, en pleine préparation, nous préparons d'un super projet au Cambodge. Pierre de Hanscooter de l'association SVI interviendra pour présenter les chantiers internationaux en Asie. Et enfin, nous terminerons l'émission par Diane, en direct du Japon, qui nous apportera son témoignage de jeune fille au pair.
Commençons sans plus tarder avec Caroline. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Oui, très bien.
Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs peut-être ?
Eh bien, je m'appelle Caroline, j'ai 21 ans et j'habite à Savenay.
D'accord. Tu es partie où alors ?
Alors, je suis partie en tout un mois, donc 15 jours en Malaisie et 15 jours à Bali.
D'accord. Est-ce que tu as préparé ce projet toute seule ?
Non, je l'ai préparé avec Itinéraire International, qui m'a aidée à construire ce projet.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu comment s'est passé ta rencontre avec Itinéraire International ?
C'est par le biais de la mission locale que je les ai connus. J'avais besoin d'un soutien et quelqu'un qui m'aide à construire mon projet et ils m'ont aidé.
D'accord.
D'accord. Et quel genre de conseils ils ont pu te donner ? Comment tu t'es préparé avec eux ?
Alors, ils m'ont aidé au niveau du bilan, en fait, par rapport au prix du billet d'avion, par rapport au visa, par rapport à la conception du projet.
D'accord. Et du coup, toi, c'est un choix personnel d'avoir choisi cette destination. Pourquoi, en fait, t'as été attirée ?
Alors, Bali, c'était un rêve pour moi d'y aller. Donc, j'ai mis toutes les choses en œuvre pour y aller le plus vite possible. Et la Malaisie, c'était plutôt parce que, côté financier, en fait, c'était pas très loin de Bali. Et pour se rendre de la Malaisie à Bali, le billet d'avion n'était pas très cher et personne de mon entourage n'avait été là-bas. Donc ça m'attirait particulièrement. Personne ne pouvait rien me dire par rapport à la Malaisie. Et je pouvais me faire mon propre avis.
D'accord. Et donc elle te vient d'où cette affection
pour Bali ?
Oui.
Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est peut-être une émission à la télé, je ne sais plus du tout.
Oui. Ça fait depuis que tu es toute petite que tu rêves d'aller là-bas ?
Non, ça faisait 5 ans.
D'accord. Donc là, tu as concrétisé ton rêve.
Voilà.
Et tu es partie toute seule ?
Non, je suis partie avec mon copain.
D'accord.
Et il était content aussi de...
Ouais. Plus changé, ouais.
C'était votre premier voyage tous les deux ?
Ouais.
D'accord. Vous êtes resté combien de temps alors là-bas ?
Un mois. Donc 15 jours en Malaisie et 15 jours à Bali.
D'accord. Et comment vous avez défini un peu votre périple ?
À la base, on devait rester 15 jours en Malaisie chez l'habitant, sous formule de workaway. Et en fin de compte, on est resté que 3-4 jours chez cet habitant, parce qu'on voulait plus découvrir le pays. Donc, de bouche à oreille, on est descendu, et puis on est remonté après jusqu'à Langkawi. Et ensuite, on a fait Bali.
D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être plus en détail ce que tu as fait là-bas ?
Donc, en Malaisie, on a été à Cameroon Island dans un premier temps. Ensuite, on est redescendu à Kuala Lumpur et on a visité Melaka. C'était plutôt les forêts là-bas qu'on a visitées. Ensuite, Paolo Bessar, une petite île où des habitants vivent là-bas. Et ensuite, on est monté à Langkawi. C'était plutôt une île baba cool, esprit zen, serein. On aimait bien. Et puis, en ce qui concerne Bali, on est arrivé à Sanur directement pour se reposer un peu. Ensuite, on est monté vers Ubud pour voir les rizières. Ensuite, le mont Batur, en fait, on s'est réveillé à 2h du matin. On a grimpé pendant 2h jusqu'au mont et on a vu le lever du soleil, c'était magnifique.
Wow.
Et ensuite, on a fait Gili Trawangan, où on a nagé avec des poissons et des tortues de mer.
Wow.
Eh bien.
Et ensuite, on a été à Kuta pour la fin du séjour.
Et Kuta, vous avez fait quoi là-bas?
Kuta, on s'est juste reposé du voyage et des marches qu'on a fait.
D'accord. Alors j'imagine que vous avez rencontré des gens là-bas, plusieurs personnes. Comment s'est passé un peu le contact avec les personnes là-bas?
Très facile. Dès que tu souris, en fait, les gens t'accueillent et puis te conseillent facilement. On a rencontré aussi beaucoup de Français à Bali. En Malaisie, beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de touristes en Malaisie.
Donc tu préférais peut-être ce côté-là, moins de touristes?
Ouais, je préférais le paysage de Bali, mais les gens de Malaisie.
D'accord. Et donc, en quelle langue tu communiquais avec les gens là-bas?
La plupart du temps, anglais. Ouais, on se faisait bien comprendre en anglais.
D'accord. Et t'étais préparée justement à parler en anglais? T'avais des bases? Comment ça s'est passé?
Alors, j'avais quelques bases, mais qui étaient un peu lointaines du collège et puis du lycée. Donc, je me suis forgée un peu avec itinéraire international en allant faire une ou deux heures de cours par semaine là-bas.
D'accord, super. Bon, du coup, t'es rentrée il y a peu de temps, là, et aujourd'hui, comment tu te sens?
Mieux qu'au début. J'avais eu un coup de blues parce que le temps qui fait que, et puis la nostalgie un peu, mais maintenant, ça va mieux.
D'accord. Et donc, justement, avant de partir pour l'Asie, qu'est-ce que tu faisais?
Je préparais mon voyage. J'ai arrêté de travailler au mois de fin octobre pour me consacrer vraiment à ce voyage parce que c'était vraiment un rêve et je voulais tout mettre en œuvre pour.
Et est-ce que tu vois une différence sur toi-même avant de partir et quand tu es revenue? Est-ce que t'as changé? T'es revenue grandie? Je sais pas.
Oui, je suis forcément revenue grandie, mais je me sens beaucoup mieux et prête à accomplir d'autres choses vu que j'ai réalisé un rêve en fait. Ouais. J'étais vraiment bloquée par ça avant. Donc maintenant c'est bon.
D'accord. Et puis, donc tu nous parlais tout à l'heure, donc tu as fait du workaway, c'est ça?
Oui.
Tu peux nous parler peut-être, c'est quoi le workaway? Peut-être tes démarches justement pour te loger, comment ça s'est passé?
Alors workaway, c'est justement itinéraire international qui m'a fait connaître ce site-là. C'est des échanges gratuits entre l'habitant et puis la personne qui va vivre chez lui. On peut faire par exemple s'occuper de l'entretien du jardin ou faire la vaisselle, le ménage. Et en échange, on est logé. Et quelquefois nourri. Tout dépend.
C'était facile pour toi de trouver des gens qui t'accueillent?
J'ai fait 6 à 7 demandes et j'ai eu une réponse ou deux de positives. Donc j'ai sélectionné après, en fonction d'où je voulais aller.
D'accord. Est-ce qu'il y avait des commentaires, des choses qui t'ont aiguillé un petit peu sur...
Oui, les commentaires des gens qui ont déjà été.
Ouais.
Ouais, je me suis beaucoup fait à ça. Ouais.
Et donc, tu arrives sur place. Là, tu rencontres la personne qui t'accueille. Mmh. C'est ça? Comment ça se passe?
Déjà, elle est venue nous chercher au point de station des bus. On l'a attendue, on n'arrivait pas à la contacter. On a un peu flippé.
Ouais.
Et puis, une fois qu'elle est arrivée, soulagement. Et puis, elle était très accueillante. Et au final, on n'a rien fait chez elle, quoi. Elle ne nous demandait aucun service, rien.
Ah oui.
Et puis, en fin de compte, c'était une guide touristique. Donc, elle nous faisait voyager en plus partout en Malaisie, quoi.
Donc, le super bon plan.
Super bon plan. Elle était géniale.
D'accord. Et donc, tu as pu aussi découvrir le pays, le coin grâce à elle.
Grâce à elle, ouais. Les temples, ouais.
D'accord. Et donc, tu n'as pas souhaité faire un autre workaway après?
Non, parce que on s'en sortait bien tout seul, en fait. De bouche à oreille, on entendait les endroits les meilleurs à aller et on y allait.
D'accord.
Et sur tous ces voyages que tu as fait, toutes ces découvertes, est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes, des choses qui t'ont surprise ou
Ce que j'ai apprécié, c'est le sourire facile des gens là-bas, alors qu'ils ont moins que nous. Et c'est énorme la différence.
C'est quelque chose que tu vois pas en France, les
gens sourire? Non, pas aussi facile.
D'accord. Et si des personnes nous écoutent, ont justement cette envie comme toi de partir vers ces destinations, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner ou des recommandations?
Un conseil, ne pas hésiter à demander le chemin si on est perdu, parce que les gens sont très chaleureux là-bas.
D'accord.
Que ce soit en Malaisie ou à Bali, ils sont très souriants et avec un sourire, on obtient tout.
D'accord, tu nous donnes vraiment très envie de partir. Qu'est-ce que tu as le plus aimé là-bas?
J'ai plusieurs choses en fait. J'ai l'île de Langkawi où l'esprit est baba cool et serein, le paysage d'Ubud et nager avec les poissons à Gili Trawangan.
Waouh. Tu souhaites repartir maintenant ou faire une petite pause? Ouais.
Je souhaite repartir, j'espère d'ici un an et demi, plutôt du côté de l'Inde et du Sri Lanka.
D'accord.
Alors, pourquoi? Comment? Et puis, c'est ça, tu peux nous parler d'un peu de...
C'est pour un projet professionnel dans le domaine des pierres. Et ça serait plutôt par rapport à la lithothérapie. Et puis, je me renseignerai pour avoir quelques contacts.
Est-ce que tu peux nous parler, c'est quoi la lithothérapie pour les personnes qui ne connaissent pas ça?
La lithothérapie, c'est le bien-être des pierres, que les pierres peuvent apporter aux personnes en fait.
D'accord. Et est-ce que peut-être... est-ce que tu souhaites faire du workaway encore à nouveau là-bas ou...
Ouais, je pense. Je pense que j'essaierai, ouais.
D'accord.
Ouais, c'est intéressant et puis tu rencontres plus de monde en fait.
Ok, donc l'émission qui s'appelle Partir pour se construire, ça marche bien dans ton cas en tout cas.
Ouais.
Ouais. Est-ce qu'il y a une musique qui t'a suivi vraiment pendant ce voyage?
Oui, c'est Alamaka de Salam Music.
Ouais.
Ouais.
Tu peux nous parler de quel contexte?
On l'a écouté sur l'île de Langkawi.
D'accord, donc écoutons la musique qui a fait voyager Caroline et on se retrouve juste après la pause avec Louise et Alix, deux jeunes femmes en quête d'aventure.
Merci beaucoup Caroline.
Merci à vous.
Thank you for the music. Yaman.
Dalam perigi, tiada siapa tahu ketakutanku bersendiri. Jek kaki tangan kiri kanan semuanya oke, tapi mata pasti sama ada kepala oke. Kenapa dua tiga buku di sini warnanya berbeza, isinya sama, tajunya lain, cintanya sama.
Kamu jenguk buku dari jauh, kamu nampak beza, kamu tengok cetek, kamu nampak hanya nama. Kerana si ular sudah bikin kamu leka, kita sudah lupa. Hanya satu pereka, kita sudah lupa. Boleh makan satu meja hingga kisah benar. Kita gelar cereka, kita lupa, kita hanya ingat kami dan mereka. Dan bagaimana boleh melarat begini, ku kata. Kau kurang memahami, jadi kita semua sebut sekali. Aku belik buku dari dekat, aku nampak sama kamu. Jenguk buku dari jauh, kamu nampak beza, kamu tengok cetek, nampak hanya nama. Kerana si ular sudah bikin kamu leka, kita sudah lupa. Hanya satu pereka, kita sudah lupa. Boleh makan satu meja hingga kisah benar. Kita gelar cereka, kita lupa, kita hanya ingat kami dan mereka.
Alamak, 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 alamak. Dalam perigi, ingin ku ceritakan apa ku mimpi tadi. Langkah bercapai tali, terus daki pergi, lari. Weh, apabila ku tiba, ku ceritakan kepada semua. Mereka tak percaya, dianggap aku berdelakan. Mentah-mentah ku tak berkasut, hanya disarungkan selipar. Oh, kenapa
alamak, 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 alamak.
De retour dans notre deuxième partie d'émission, Partir pour se construire, sur le sujet Partir en Asie, pourquoi pas moi. Nous accueillons Louise et Alix qui sont avec nous aujourd'hui pour nous parler de leur projet.
Bonjour Alix.
Bonjour Louise.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes deux jeunes nantaises, vous avez quel âge?
Alors 18 et 17 ans.
Donc 17 ans pour...
Moi, Louise.
Louise.
Et moi, 18 ans.
Parce qu'on ne vous voit pas, il n'y a pas de caméra dans le studio.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un petit peu de vous, de vos passions?
Alors, moi, je m'appelle Louise, donc je suis en terminale au lycée Clémenceau. Et on a vraiment des passions communes avec Alix, comme l'aventure et vraiment la découverte, les voyages.
On aime le sport, la musique et... surtout, ce qui nous lie toutes les deux, c'est vraiment le voyage, je pense. Mmh. Et moi, je suis en terminale, comme Louise, mais au lycée à La Perverie.
Voilà.
Okay. Et donc, vous passez actuellement votre bac, c'est ça?
Exactement.
C'est ça.
Un bac dans quel domaine?
Alors, moi en ES et Louise en L.
Ok. Très bien. Comment vous êtes rencontrés alors? Parce que vous n'êtes pas dans le même lycée?
Alors, j'ai été dans le collège... La Perverie, donc là où était Alix, et on s'est rencontrés il y a 6 ans. Et depuis, voilà.
Longue amitié alors.
Exactement.
Très bien. Et donc vous avez un projet à destination de l'Asie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce projet-là?
Tout à fait. Alors en fait, on va partir, on a pour projet de partir cet été, en août, un mois au Cambodge. Donc le projet, c'est de faire le tour du Cambodge. Mais on a vraiment envie de partir autrement. Répondre... aux nouveaux enjeux de la mondialisation, de ce qu'on nous rabâche à l'école, du développement durable, de la pollution et tout ça. On a envie de prendre notre sac à dos et partir, tester des nouvelles choses qu'on n'a pas expérimentées jusqu'ici, comme le couchsurfing,
le respect de la nature, des autres, des populations.
Et puis on a vraiment envie de découvrir le pays, vraiment rencontrer des gens et passer du temps avec eux et pas juste aller en touriste et... Du coup, ouais. On a prévu de revenir avec quelque chose et de faire un...
En fait, on veut vraiment revenir avec quelque chose qui serait différent de si on était parti en club ou quelque chose tout inclus, l'hôtel où on reste pendant la durée de notre séjour. Là, on veut vraiment partir différemment.
Et ouais. Du coup, on a prévu de ramener un carnet de bord. En fait, on va rédiger un carnet de bord...
qui sera un carnet guide, en fait.
D'accord.
Voilà, sur cette manière de voyager et une exposition photo.
Eh ben,
voilà, plusieurs
projets. C'est super intéressant. En tout cas, toute votre démarche. Est-ce que vous avez déjà votre périple bien précis, bien prévu? Parce que vous voulez rencontrer du monde, passer du temps avec les gens. Comment vous avez un peu, est-ce que vous avez votre itinéraire en fait déjà dessiné?
Alors, Alors, pas un itinéraire précis au point des villes et des hôtels, mais on sait quelle région on veut découvrir. Donc, on commencerait par le nord du Cambodge, qui a vraiment un patrimoine culturel et historique énorme.
Avec les temples d'Angkor, que tout le monde connaît au final.
Voilà, mais la deuxième partie du voyage, elle se ferait dans le sud du Cambodge, où il y a des villes et îles côtières estivales, c'est le bord de mer. Et enfin, pour partir vers l'est, et ce serait vraiment la moitié de notre voyage, et l'est a la particularité d'être beaucoup plus sauvage. La nature est reine, quoi, c'est vraiment dans le cœur du pays.
Et on passerait par la capitale, Phnom Penh. Donc voilà.
Donc, vous nous faites rêver. Vous me faites rêver, moi, en tout cas, je crois, non.
Oui, moi aussi.
Vous nous avez parlé un peu de votre projet, de vos étapes. Comment vous avez choisi, en fait? Comment vous avez dit, on va aller là, on va aller là? Comment ça s'est décidé?
En fait, c'était surtout en fonction du billet d'avion.
Ah oui.
Parce qu'on atterrit à Bangkok, en fait, en Thaïlande. Et parce qu'il y avait des différences de prix assez conséquentes. Et au final, c'est... on ira en car ou en train jusqu'à la frontière cambodgienne. Et du coup, on fera le tour du Cambodge pour revenir à Bangkok. Quoi,
l'itinéraire s'est fait plus
naturellement.
Super naturellement. On a regardé la carte et on a fait on fait comme ci, comme ça.
D'accord.
Voilà.
On a déjà lu le Lonely Planet sur le Cambodge.
D'accord. Et du coup, c'est pas du tout la porte à côté, le Cambodge. Est-ce que c'est votre premier voyage aussi loin? Vous avez déjà voyagé avant?
Alors oui, on a voyagé toutes les deux plusieurs fois, notamment avec notre famille. Mais là, ce voyage, c'est vraiment le premier qu'on fait autonome et sans repère. Voilà, vraiment toutes les deux.
Voilà, sans point de repère sur place et bah toutes les deux aussi au final.
Et vous avez parlé aussi de voyager autrement, d'utiliser des façons de voyager qu'on n'utilise pas forcément tout le temps. Est-ce que c'est la première fois aussi que vous allez voyager de cette façon-là ?
Je pense oui.
Oui.
Au final, on n'a jamais fait l'une comme l'autre, que ce soit du couchsurfing ou même là, on a vraiment...
dormir chez l'habitant.
Et puis on a vraiment prévu de faire le tour du Cambodge, mais on n'a ni l'une ni l'autre permis en plus, donc on n'a pas vraiment le choix. Mais en transport en commun ou en...
Parce que vous rencontrez les gens en plus.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, parce que quand on a voyagé avec nos familles, on était itinérants comme ça aussi, mais c'était en voiture ou...
Oui, on n'a jamais vraiment voyagé avec nos familles tout en restant en point et sans vraiment découvrir le pays. Mais c'est la première fois qu'on voyagera vraiment de cette manière différente.
Ok. Et donc, ça a dû vous avez dû prendre du temps pour préparer ce voyage. Depuis combien de temps vous y pensez, vous y réfléchissez?
Ça fait depuis janvier en fait. En janvier, ouais, on a commencé à y penser à ça et ensuite ça a mûri dans notre tête et ouais. Après, il y a eu toutes les procédures pour passer, pour avoir des bourses, des choses comme ça et
pour le financement du projet, c'est ça en fait la vraie organisation qu'on a fait pour le moment.
Et qui vous a aidé justement avec ces financements-là, tout ça, quoi, avec ce projet-là?
Alors, on a fait appel à l'éclectique qui nous a aidé en fait à trouver des moyens de financement. C'est pas eux qui vont nous financer, mais vraiment ils nous aident et
ils nous accompagnent en fait.
Voilà, ils nous accompagnent tout au long de notre projet
pour monter le projet.
Mm-hmm. Comment ça se passe un accompagnement avec l'éclectique?
En fait, on avait déjà connu ça l'année précédente parce qu'on avait monté un autre projet l'année d'avant. Et donc en fait, on se voyait assez régulièrement. Toutes les deux semaines et pour parler du projet, pour monter des dossiers, pour faire évoluer le projet aussi parce que l'idée de départ était pas exactement celle d'aujourd'hui c'était vraiment on se voyait régulièrement, on en parlait, c'était ça, oui.
Voilà, et trouver surtout un moyen de financement.
D'accord, bon, on va revenir alors au financement. Comment comment vous avez trouvé de l'argent alors pour ce projet là
Alors, d'une part avec la plateforme internet de financement coopératif qui s'appelle KissKissBankBank. Donc, un site qu'on a découvert justement par Framboise qui nous a accompagnés à l'éclectique. On met un projet sur la page
du site
et on appelle les gens à financer le projet et les gens mettent ce qu'ils veulent et au final on est hyper contente parce qu'on a réussi à atteindre notre objectif même à le dépasser, donc ce qui est quand même génial parce qu'on s'y attendait vraiment pas en plus.
Et le petit stress de ce moyen de financement est que on propose donc notre budget est en un temps imparti et après le décompte commence et si au bout du temps on n'a pas eu notre objectif, et tout le monde est remboursé et on n'a pas l'argent, donc on était vraiment motivés pour faire les gens soutenir notre projet. Et
donc c'est vraiment les amis, la famille qui nous a aidés. On les remercie.
Oui, au passage.
Et comment ça marche? Est-ce qu'il y a des contributions? Parce que je sais que sur d'autres sites il y a des contributions justement qu'on...
Ouais,
distribue aux personnes qui nous aident.
Alors il y a des contreparties en fait, donc pour un montant donné on offre des petits cadeaux en gros. Par exemple, je vais vous donner un exemple, mais pour 10 euros on envoie une carte postale du Cambodge et on ramène un petit bracelet du Cambodge.
C'est top ça.
Voilà, ça donne un petit aspect dynamique au soutien.
Sympa.
On va parler de votre aventure. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette aventure? Qu'est-ce que ça va vous apporter pour vous-même, toutes les deux?
On a vraiment envie, en fait, de revenir... on a vraiment envie de mûrir, de découvrir autre chose pas de revenir changer, mais concrètement, d'avoir aussi...
Grandi
et d'avoir une plus grande ouverture d'esprit, au final, et d'avoir encore en plus envie de repartir.
Oui.
Et donc après le voyage, vous avez des projets? Qu'est-ce que vous allez peut-être revoyager? Qu'est-ce que vous allez faire après?
Sûrement.
Reprendre les études?
Bah oui, déjà on va vu que c'est cet été, du coup, bah après on aura nos rentrées pour les études supérieures et ensuite bah monter d'autres projets. Mais je pense qu'on se reverra d'ici là.
Vous allez faire quoi comme études du coup?
Alors moi je serai en droit, voilà.
Et moi j'aimerais me diriger vers le journalisme. Donc soit une fac pour faire du journalisme, une école de journalisme, soit en fonction de si je suis acceptée ou non à Sciences Po, donc on verra.
D'accord. Et donc vous parlez tout à l'heure juste d'un carnet de voyage, c'est ça?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ça aussi? Est-ce que c'est grâce à la campagne que vous avez financé ça?
Alors voilà. Non, c'est grâce au CLAP.
D'accord.
En fait, la ville de Nantes propose de financer des projets qui sont présentés. Et du coup, on a présenté notre projet de carnet guide et d'exposition. Et on a réussi à avoir une partie de notre demande de financement. Donc on est plutôt contente, même s'il reste... De l'argent à trouver, mais on s'en sortira, on pense.
Ok, moi super. En tout cas, on vous souhaite bon courage et puis bon courage pour votre bac.
Merci.
Ben merci beaucoup. Ouais, on espère vraiment que ça va vous enrichir, vous apporter plein de bonnes choses. Nous sommes toujours dans l'émission Partir pour se construire. Nous animons une émission aujourd'hui spéciale Partir en Asie, pourquoi pas moi. Après la pause, nous accueillerons Pierre de En Scooter pour nous parler des chantiers internationaux. Restez à l'écoute.
Au revoir, merci les filles.
Merci à vous, au revoir.
Après le témoignage de Louise et Alix, nous allons parler d'une toute autre façon de partir, faire de la solidarité en Asie, avec Pierre de En Scooter, directeur de l'association SVI, qui est en ligne avec nous pour nous en parler. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. Vous êtes donc directeur de l'association SVI. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette association ?
Oui, donc le SVI, c'est le Service Volontaire International. C'est une organisation de jeunesse non lucrative, qui est à la fois française, belge et aussi vietnamienne, qui permet à des jeunes de partir à l'étranger pour des périodes de 2 semaines à plusieurs mois.
D'accord.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un chantier international exactement ?
Oui, alors un chantier international, mais contrairement à ce que pourrait faire penser l'expression, c'est pas forcément un chantier de construction. Un chantier international, c'est avant tout des jeunes adultes qui partagent une passion commune et qui vont se rencontrer quelque part aux quatre coins de la planète pour donner un coup de main à une association qui fait quelque chose qui les intéresse. Donc ça peut être des jeunes qui vont aller rejoindre d'autres jeunes en Sibérie, pour une maison de jeunes qui a envie de faire un conservatoire, ça peut être la protection des tortues sur les plages au Mexique, ça peut être des choses parfois plus profondes, comme faire du soutien scolaire avec des enfants des rues à Katmandou, ça peut être une pièce de théâtre au Sénégal, ça peut être plein de choses. Alors donc l'idée, c'est bien sûr de donner un coup de main à une association, mais également de vivre une expérience communautaire. Donc on mélange des jeunes des quatre coins de la planète, plus des jeunes locaux, et pendant 2 semaines, plusieurs mois, ils vont vivre et travailler ensemble avec tout ce qu'il y a d'enrichissant, mais aussi toutes les difficultés qu'ils vont avoir. Par exemple, manger ensemble quand on mélange des hindous, des juifs, des musulmans, des végétariens, ben voilà. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Dans la durée pas pour un Français ou pour un Espagnol, ce n'est pas forcément la même chose. Donc un chantier international, c'est un peu tout ça. Donc c'est à la fois du volontariat pour une association lucrative et c'est une rencontre.
D'accord. Donc vous l'avez dit, partir en volontariat international, c'est donc un acte solidaire, mais aussi l'occasion de découvrir des cultures, des langues, des cuisines, des populations locales, etc. On pourrait encore en rajouter. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ce changement total d'environnement qui attire les jeunes à partir vers des destinations comme l'Asie, par exemple ?
Alors, oui, c'est ça, mais pas que ça. Je pense qu'il y a aussi la dimension associative, hein, puisqu'ils partent avec nous plutôt que de partir comme simple touriste. Le travail qu'ils vont faire les intéresse. Parfois aussi la découverte du secteur associatif les intéresse, la pratique d'une violence dans un autre contexte, se faire des nouveaux amis. Alors c'est peut-être pas toujours un changement total, souvent ce sont des jeunes qui sont déjà localement chez eux intéressés par quelque chose de similaire et qui ont envie d'aller voir un petit peu ce que fait le secteur associatif ailleurs. Comme c'est parfois des jeunes qui sont passionnés par la protection de l'environnement et qui se disent tiens, je vais aller voir dans un pays asiatique comment eux ils font, et puis quand je vais revenir chez moi, je vais peut-être mélanger ce que j'ai appris là-bas ici.
D'accord. Justement, quel est le profil des jeunes qui souhaitent partir en chantier international vers l'Asie avec vous ?
Alors, il y a vraiment de tout, et c'est notre volonté aussi de mélanger les genres. Donc, on a des très jeunes qui ont 18 ans, qui vont partir peut-être pour la première fois en dehors de l'Europe. On a des personnes plus âgées, on a des étudiants, on a des gens qui sont entre deux périodes de leur vie, par exemple des étudiants qui ont terminé leurs études et qui ont peut-être pas envie tout de suite de commencer à travailler, des gens qui sont sans emploi et qui ont envie malgré tout d'être actifs et de ne pas attendre sans rien faire. On a parfois aussi, puisqu'on est ouvert, on a parfois même des personnes retraitées aussi qui partent avec nous. Pourquoi pas, on est une organisation de jeunesse, on est ouvert. Après, au niveau social aussi, c'est très très varié. On a des jeunes qui font des études très intellectuelles, d'autres des études très manuelles. Voilà, on a vraiment de tout. C'est vraiment notre volonté de rendre le volontariat accessible à tous. Donc on s'adresse à la fois à des jeunes universitaires, mais aussi, dans les squats, faire la promotion du volontariat international, parce que pour nous, le volontariat, c'est une expression de la citoyenneté, et cette citoyenneté ne peut pas être l'apanage du mérite intellectuel ou financier.
Mmh. C'est vraiment varié, ça, et puis c'est intéressant aussi de rencontrer, de nous rencontrer aussi, ça peut être une rencontre entre différents jeunes, et puis différents profils, différents âges aussi.
C'est oui, intéressant. Tout à fait. Ouais. Montrer aussi qu'on n'est pas condamné par ses études, donc on peut aussi trouver des gens qui ont une formation qui a priori n'a strictement rien à voir et puis les mettre dans un autre contexte pour voir. Pour donner un exemple, on a une fois une jeune fille qui était astrophysicienne et qui a fait l'animation dans notre maison de jeunes à un œil végétal. Donc a priori, ça n'a strictement rien à voir. Mm-hmm. Le fait qu'elle avait cette formation, ça lui a donné l'idée de construire un cadran solaire avec les enfants. Donc c'est un truc auquel on n'aurait jamais pensé. C'était l'occasion de faire un truc un bricolage chapin, une introduction à la géographie, à l'astronomie. Donc voilà, on aime bien mélanger les gens, les styles. Parfois aussi pour des gens qui font des études très intellectuelles, de rencontrer des gens qui font des trucs plus manuels, ça peut aussi ouvrir l'esprit. Donc c'est à la fois un mélange de culture, de religion, de langue, de connaissances. Voilà, c'est un peu tout ça, un chantier international.
D'accord. Et justement, est-ce qu'il est conseillé de maîtriser une langue avant de partir dans un pays étranger comme l'Asie, par exemple ?
Bon, l'Asie, c'est vaste. Hein, mais je dirais d'abord, encore une fois, je te conviens, c'est de rendre le volontariat international accessible à tous. Mm-hmm. On ne sélectionne pas les volontaires, on fait beaucoup plus. On l'aide, lui, à sélectionner le projet qui lui convient. Donc, par exemple, un jeune qui nous dirait... je suis jamais sorti de France, je n'ai jamais trop voyagé, je maîtrise pas un mot d'anglais et je vais partir un an dans un bidonville à Calcutta. On ne va pas lui dire non, mais on va peut-être se lui dire, mais peut-être ce serait bien de faire quelque chose d'intermédiaire avant de se lancer dans une aventure aussi grande et de risquer peut-être de revenir deux jours après parce qu'on est complètement largué. Ce qu'on essaie de responsabiliser, de demander aux jeunes, ben voilà, tu imagines, tu attends, tu en face de toi 10 autres jeunes de 10 nationalités qui parlent plus ou moins bien anglais. Est-ce que ta personnalité, est-ce que ton niveau linguistique va te permettre de t'intégrer, bien très vite tu vas te sentir seul. Pour donner un exemple, on a une fois eu un jeune qui parlait pas un mot d'allemand, pas un mot d'anglais, qui est parti 6 mois en Allemagne, et ça s'est super bien passé. Il a trouvé des astuces pour contourner la barrière de la langue. Par contre, on a beaucoup plus souvent des jeunes qui finalement maîtrisent relativement bien l'anglais, mais une fois sur place, ils sont trop fainéants, ils ont peur de faire des fautes, ils ont des difficultés avec les accents. Voilà, la personnalité est vraiment très importante. Maintenant, c'est clair que quand même avoir des petites bases en anglais, c'est quand même fort, fort utile. C'est une très bonne idée de revoir son anglais avant de partir, ne fût-ce que de pouvoir déjà la sortie de l'aéroport commander un taxi. Mais voilà, donc nous, on veut que ça soit activement accessible à tous. Maintenant, il n'y a pas que l'anglais. Si, par exemple, on avait des volontaires qui viennent au Vietnam, se mettent à apprendre le vietnamien, pourquoi pas?
D'accord.
On a des projets au Japon où on demande, où là c'est le partenaire qui demande d'avoir des bases en japonais parce que c'est pour faire de l'animation avec des enfants.
D'accord, donc on anime aujourd'hui une émission spéciale Asie, partir en Asie, pourquoi pas moi. Est-ce que c'est une destination qui est beaucoup demandée? Vous rencontrez beaucoup de jeunes qui ont un projet en Asie?
Oui, bon, peut-être aussi parce que je voulais vous dire qu'au départ on est une association... vietnamienne, donc le SBI est un peu particulier, puisqu'au départ on s'est créé avec la coopération belge et les Nations Unies pour le Vietnam, et puis on a fait un chemin un peu inhabituel, on est parti du Vietnam vers l'Europe pour, d'habitude c'est plutôt l'inverse. Oui, on a facilement la moitié de nos volontaires qui partent en Asie, au Vietnam bien sûr, au Japon, en Thaïlande, au Népal, en Chine, en Corée, en Indonésie. Voilà, on a pas mal de volontaires, aussi qui vont y aller de manière un peu différente. Là, on a un volontaire qui est en route pour le Vietnam, en train, donc il s'arrête en Allemagne, en Estonie, en Russie, en Mongolie, Chine, et puis il s'arrête 6 mois au Vietnam. On a eu l'année passée un volontaire qui est parti au Népal en vélo, par exemple, ça lui a pris plus de 6 mois. Mais oui, je pense qu'il y a un attrait assez grand pour l'Asie.
D'accord. Et retour, vous avez toujours un contact avec les jeunes qui sont partis? Il y a un suivi ensuite à leur retour?
Alors nous, on n'est pas du tout une agence de voyage, tu payes, tu pars et puis basta. on est nous-mêmes gérés par et pour les jeunes. Donc ce qu'on espère, c'est que le volontaire, à son retour, aura envie à son tour de s'intégrer dans l'association, de la faire tourner, parce que voilà, le jour où il n'y a plus de volontaires qui nous donnent un coup de main, il n'y aura plus de chantiers internationaux. Alors il y en a qui s'investissent beaucoup, il y en a d'autres un petit peu, d'autres aussi pas du tout, mais en tout cas, nous, ce qu'on fait systématiquement, c'est retour, au moins faire une évaluation un peu volontaire, voir un petit peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce qui était négatif, parce qu'il ne faut pas le cacher non plus, hein. Il y a des volontaires parfois qui reviennent déçus de leur projet de volontariat. Donc pour nous, c'est très important de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est surtout de comprendre qu'est-ce que ça a apporté aux jeunes. Finalement, pour nous, qu'ils soient partis 2 semaines et que c'était super chouette, c'est bien. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est au retour, voilà, qu'est-ce qui a changé dans sa vie. Par exemple, un jeune qui irait sur un projet environnemental en Thaïlande, et si au retour, il nous dit... j'ai pris conscience que l'environnement c'est important, je vais m'inscrire chez Greenpeace, et bien pour nous ça c'est un projet qui réussit.
Très bien, merci. On arrive déjà à la fin de notre troisième partie et c'est le temps de vous remercier, monsieur Dan Scooter. Peut-être avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous donner le site web de l'association SVI pour que les auditeurs puissent le consulter?
Oui, c'est facile, donc c'est www.serviceuvolontaire.org.
Service. D'accord, merci, c'est noté. Merci beaucoup, monsieur Pierre de Scooter. À bientôt.
Après... Moi, je vous remercie et à bientôt.
Merci.
Après la pause, nous terminerons l'émission avec Diane en direct du Japon. Restez à l'écoute.
À tout à l'heure.
この世で一番綺麗な水が湧いた。やがてそれは川になり、そこに群れを作った魚を腹をすかした熊が食べて、漁師が熊の皮を剥いで、それを市場で売りさばいて、娘のために買った髪飾り。丸い人間がやってきて、全部奪ってしまったのは、歴史のちょうど真ん中あたり。神様も赤ん坊の時代、母親のこぼした涙が焼けた匂いの土に染みて、それを太陽が焦がして蒸発してできた黒い雨雲、その雲は海を越えた砂漠に5ヶ月ぶりの雨を降らした。真水を飲んで生き延びた詩人が祖国に帰って歌った歌、それを口ずさんだ子供たちが前線に駆り出される頃、頭を吹き飛ばされた少女が誰にも知られず土に帰る。そこに育った大きな木が切り倒されて街ができて、黒い煙が空に昇る頃、汚れた顔で僕ら生まれた。善意で殺される人、悪意で飯にありつける人、傍観して救われた命、 走る高架下で暮らしている。喜怒哀楽をカテゴライズ、人に合わせて歌ができて、悲しい時はこの歌を、寂しい奴はあの歌を、騙されねえと疑い出して、全部が怪しく見えてきて、人を信じられなくなったら立派な病気にカテゴライズ、不健康な心が飢えて
劇をもっとと叫んでいる。仮に名分ができた他人がやましさもなく断罪する。人殺しと誰かの不倫と宗教と流行の店と一目と夜九時のドラマと戦争とヒットチャートと誰もが転がる石なのにみんなが特別だと思うから、選ばれなかった少年はナイフを握りしめて立てた。匿名を決め込む駅前の雑踏が真っ赤に染まったのは夕焼け空が綺麗だから、どん詰まりで僕ら未だにもがいている。結局何もわからずに許すとか許されないとか、死刑になった犯罪者も聖者のふりした悪人も罪深い君も僕もいつか土に帰った時その上に花が咲くなら、それだけで報われる世界、そこで人が愛し合うなら、それだけで価値のある世界。だからせめて人を愛して一生かけて愛してよ。このろくでもない世界で辻褄合わせに生まれた僕ら。
De retour dans notre émission Partir pour se construire, partir en Asie, pourquoi pas moi. Nous allons maintenant appeler vers le Japon, Diane, qui a décidé d'avoir une expérience en tant que jeune fille au pair dans une famille au Japon. Bonjour Diane.
Bonjour.
Bon, on va se tutoyer, comment vas-tu?
Ça va, une semaine à 27 degrés au Japon, on ne peut pas se plaindre.
Ouais, la chance. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide de toi, de ce que tu fais, de ton âge, dans quelle ville tu es, etc.
Alors, bien sûr, j'ai 22 ans, je vis à Tokyo depuis septembre 2013, donc un peu plus d'un an et demi, en tant qu'au pair dans une famille française. Depuis septembre 2014, j'ai intégré une école de japonais pour y apprendre la langue.
Ok, bah c'est super intéressant. Ça, c'est pas commun en tout cas. Et avant de partir dans ce pays, qu'est-ce que tu faisais ?
J'avais travaillé en entreprise pour économiser l'argent dans le but de partir, en fait.
D'accord. Tu travaillais dans quel domaine ?
J'ai fait pas mal de travail différents, mais on va dire que le principal a été hotline.
Mmh.
Donc, le but étant de pouvoir partir et accumuler de l'argent.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir au Japon ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette destination, en fait ?
Je m'intéressais au Japon depuis pas mal d'années déjà, à travers divers blogs, des articles, des livres. Et je m'étais dit, avant de poursuivre des études d'infirmière, qui était mon plan à la base, j'avais vraiment envie de découvrir ce pays en me disant qu'après, peut-être, ça risquait d'être plus difficile.
D'accord. Et donc, d'où t'es venue cette passion ? Ça fait depuis que t'es toute petite ? Tu regardais les mangas peut-être ou des choses comme ça ?
En partie, disons que ma cousine est très fan du pays également et m'a transmis un peu sa passion.
D'accord.
Au fil des années.
Okay. D'accord. Et avant de partir justement, est-ce que t'avais des craintes ou des appréhensions vis-à-vis de cette destination ?
Pas vis-à-vis du pays en lui-même qui est assez sécuritaire. Honnêtement, je vis donc à Tokyo, une ville qui contient quand même plusieurs millions d'habitants. Et pourtant, même au cœur de la nuit, on est rassuré en sortant. Les gens, il n'y a pas vraiment de... Enfin, pas beaucoup de crimes, on va dire. Donc, pas à ce niveau-là. C'est plutôt au niveau de d'être au pair. Vivre dans une famille étrangère.
Oui.
Il n'est pas toujours évident et j'avais eu quelques mauvais récits d'amis qui avaient fait la même chose.
Et toi, comment ça s'est passé alors ton arrivée dans cette famille-là ?
Très bien. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je suis tombée dans une famille très gentille, monoparentale. Donc, une mère et deux adolescents, ce qui n'est pas non plus courant.
Mmh.
Mais c'est vrai que je n'aurais pas pu rêver mieux.
Est-ce que c'est courant au Japon des familles monoparentales ?
Non, pas tellement.
Non.
Il y en a quelques-unes, mais il est vrai que généralement, il y a beaucoup de familles qui possèdent les deux parents encore.
Et alors, c'est quoi ton est-ce que tu te souviens de ton premier pas, tes premiers pas dans Tokyo ? Enfin, c'est quoi les sensations que tu as eues, le sentiment que tu as eu dans ton arrivée dans ce pays-là et dans cette ville-là ?
Eh bien, à vrai dire, j'avais accumulé une journée et demie d'avion, donc c'était un peu embrumé.
Mmh.
Tout avait l'air nouveau, très grand. Les Japonais aiment beaucoup les grands buildings. Et n'étant jamais sortie de l'Europe auparavant, je découvrais vraiment pour la première fois. Les deux premières semaines, surtout, j'ai couru pour visiter le plus de choses possible avant de calmer un peu le rythme. Mais j'en garde quand même une assez bonne impression et vraiment une découverte assez incroyable.
Mmh. Et quelles ont donc tu nous parlais donc tu as fait donc tu es fille au père dans une famille. Comment tu as trouvé justement peut-être pour les personnes qui nous écoutent qui souhaitent trouver une famille, comment on trouve une famille au père depuis la France au Japon?
Mon cas est un peu à part. Il existe des sites internet comme Au Pair World.
Mm-hmm.
Par contre, vivre dans une famille japonaise est impossible en tant qu'au père. La majorité des Japonais ne connaissent pas le terme et il leur est assez difficile à comprendre quand on leur explique. Donc généralement, ce sont plutôt des familles d'expatriés comme la mienne.
D'accord. Donc tu es dans une famille française au Japon ?
Tout à fait.
Ouais.
Et dans mon cas, j'ai trouvé grâce à un site internet qui est très bien, qui s'appelle PVTiste.
D'accord, ok.
Qui aide donc à partir, qui donne des informations et qui permet le partage d'informations pour partir dans les pays concernés par le visa vacances-travail.
Mmh, je ne savais pas, donc pour les gens qui nous écoutent, peut-être le site c'est pvtiste.net, pvtiste.net, c'est ça?
Tout à fait.
Ouais. Et est-ce que tu peux me parler alors à ce moment-là des tâches qu'il a réalisées? Qu'est-ce que c'est un quotidien de fille au père?
Alors, mon quotidien de fille au père est parfois un peu différent de la majorité. Mais en général, une fille au pair doit s'occuper des enfants et de certaines tâches ménagères.
Mmh.
En échange de quoi, elle est nourrie, logée et payée. Bien sûr, ce n'est pas une esclave, elle a aussi du temps libre. Dans mon cas, j'ai simplement à m'occuper des enfants. Donc une autre personne est engagée pour aider au ménage. Donc ce qui me laisse beaucoup de temps libre étant donné que les enfants sont des adolescents. Donc pas besoin de changer les couches non plus.
D'accord. Et du coup, justement, comment tu les utilises toi, tes temps libres? Pardon, excuse-moi.
L'année dernière, 2013-2014, j'en ai profité pour beaucoup voyager, surtout pendant les vacances scolaires françaises. Donc j'ai pu faire des détours du côté de Nara, Hokkaido, donc Sapporo. Autrement, visiter les alentours, rencontrer des gens.
Mmh. D'accord, et justement, tu rencontres des gens. Est-ce que tu maîtrises la langue japonaise?
Je l'avais déjà apprise par moi-même avant de venir au Japon.
Mmh.
Et pour l'améliorer, donc je possédais les bases suffisantes pour demander le chemin ou parler, quelques mots. Et j'ai décidé d'approfondir la langue et donc depuis septembre, je suis dans une école de japonais.
D'accord. Tu peux nous dire quelque chose en japonais ?
Bien sûr.
S'il te plaît.
Kyo wa kami o tsukurimashita.
Oh, qu'est-ce qui signifie ?
Aujourd'hui, j'écris du papier.
D'accord.
Ce qui est vrai, pardon.
Ah.
Ce qui est vrai, ça dit ?
Oui, oui.
C'est-à-dire que tu es dans un atelier de création de papier ?
J'ai visité avec mon école le musée du papier et nous avons créé des cartes postales à partir donc de briques de lait. Mmh. Donc c'est un processus assez intéressant à faire.
J'imagine, oui.
Donc,
d'accord.
Si jamais il y a des gens qui vont sur Tokyo, je leur recommande.
Mais le musée du papier. D'accord, l'émission touche déjà à sa fin. Diane, on te remercie beaucoup pour ton témoignage.
Oui, merci Diane.
Rien.
Merci, puis bah bonne suite au Japon alors.
Merci. Bonne continuation aussi.
Merci. L'émission Partir pour se construire spécial Asie touche bientôt à sa fin. Merci à tous nos auditeurs pour le temps qu'ils nous ont accordé aujourd'hui. J'espère que ces différents témoignages ont été enrichissants pour vous.
Comme vous l'avez pu l'entendre, partir à l'étranger, c'est possible, peu importe votre niveau d'études ou d'expérience, alors n'hésitez plus. Si vous souhaitez écouter d'autres témoignages de jeunes partis à travers le monde, en emploi, job, stage, pro, en volontariat, il existe de nombreux podcasts en émission Partir pour se construire sur le site de Radio Nantes. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous donne rendez-vous en juin avec Maxime pour un nouveau rendez-vous de Partir pour se construire.
À bientôt.
C'était Partir pour se construire. Retrouvez cette émission en podcast sur euradionantes.eu.